Europe 1, 10h. Le flash, Émilie Dès, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Elisabeth Borne à l'épreuve du feu. La première ministre va prononcer cet après-midi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale à 15h, devant le Sénat à 21h. Contrairement à l'usage, elle ne se soumettra pas ensuite au vote de confiance des députés. L'opposition ne lui aurait sans doute pas accordé. La NUPES va déposer une motion de censure, mais peu de chances qu'elle soit adoptée. Le Rassemblement national et les Républicains vont voter contre ou s'abstenir. Elisabeth Borne sera ce soir l'invité du 20h de TF1. Dernier coup de stress pour les candidats au bac, ceux qui ont obtenu moins de 10 à l'examen, soit 7% des lycéens. Les épreuves de rattrapage démarrent ce matin, elles se poursuivront jusqu'à vendredi. Trafic très perturbé aujourd'hui à la SNCF. Les cheminots en grève réclament des hausses de salaire. Comptez 2 TER sur 5 en circulation, 1 RER sur 2 en Île-de-France ou encore 2 Ouigo sur 3. Grève aussi dans les aéroports parisiens. Le préavis court de vendredi jusqu'à la fin de ce premier week-end de départ en vacances. Les syndicats maintiennent leur préavis avant une éventuelle reprise des négociations dans les prochaines heures. Les transports en commun où le port du masque est fortement recommandé à Nice et dans sa métropole, il sera même obligatoire dès lundi. Décision du maire Christian Estrosi, plus de 200 000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. En Chine, plusieurs millions de personnes sont confinées à cause d'un rebond épidémique. Shanghai craint le retour des restrictions. Un mois après la levée d'un long confinement, le ministère de la Santé a relevé près de 300 nouveaux cas positifs à l'échelle nationale. Moscou dénonce une violation de l'étiquette diplomatique après la publication hier sur France 2 d'un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Entretien qui a eu lieu 4 jours avant que Moscou ne lance son assaut contre l'Ukraine. Aux États-Unis, l'auteur présumé de la fusillade lundi en banlieue de Chicago a été inculpé pour 7 meurtres. S'il est reconnu coupable, il risque de passer sa vie en prison. 3 jours après l'effondrement du glacier de la Marmolada en Italie, 5 personnes sont toujours portées disparues. Les secouristes espèrent poursuivre les recherches à pied à partir d'aujourd'hui. Le bilan, encore provisoire, fait état de 7 morts et 8 blessés. Un mot du Tour de France, 5e étape aujourd'hui entre Lille et Arenberg. Les coureurs vont se frotter au pavé du Paris-Roubaix. Sur 155 km de course, 20 se feront sur les pavés. Et puis début ce soir de l'Euro de foot féminin. L'Angleterre, pays hôte, ouvre le tournoi à 21h face à l'Autriche. Les Françaises débuteront dimanche face à l'Italie. Avec nous en studio, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Quel est le programme d'Europe Midi aujourd'hui?
Alors dans Europe Midi, j'aimerais vous entendre sur cette information. Des maires de la métropole de Nice décident de rendre à nouveau obligatoire le masque anti-Covid dans les transports en commun à partir de lundi. Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure? On va en parler dans Europe Midi. Vous appelez le 3921, vous passez à l'antenne. La grève à la SNCF aujourd'hui, il pourrait y avoir d'autres journées d'arrêt de travail cet été. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos vacances? Dites-le, passez à l'antenne sur Europe 1 dans Europe Midi. Et puis, le gouvernement qui décide de faire venir en France 35 enfants et 16 femmes, tous français, qui avaient décidé de quitter la France pour rejoindre l'État islamique. Est-ce que vous soutenez cette nouvelle stratégie? On va en parler dans Europe Midi. J'ai hâte d'entendre vos opinions, vos avis. On sera également avec Cécile Rilhac, qui est députée Renaissance du Val-d'Oise, et Julien Odoul, qui est député RN de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Voilà le programme, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci Romain. Europe 1. 10h04 sur Europe 1, la suite de Culture Média, c'est maintenant.
Merci Émilie Dès, on vous retrouve tout à l'heure à 11h sur Europe 1.
À tout à l'heure.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Olivier Benkemoun.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. Notre invité est le violoniste et virtuose Renaud Capuçon qui se lance dans une nouvelle aventure coach de talent. Lisa Marie Marquez vous dévoilera 3 moments marquants de la carrière de notre invité. Les indispensables de Culture Média, Olivier Pouls pour le bien manger et surtout le bien boire. Surtout bien boire, c'est important pour l'été. Et Louise Goy et ses conseils séries télé. Enfin Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour.
Vous êtes un violoniste à la renommée mondiale, directeur de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Depuis l'an dernier, vous avez créé plusieurs rendez-vous, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous êtes également le directeur artistique du Festival des Sommets Musicaux de Stadt. Votre agenda est plus que chargé et le public va pouvoir vous écouter cet été en France et même un peu partout en Europe. Et vous venez d'ajouter une corde, on ne dit pas une corde à votre arc, mais une corde à votre violon forcément, en devenant producteur de jeunes talents de musique classique. D'où vient l'idée ?
L'idée, elle est très organique. En fait, vous savez, je joue avec des jeunes depuis très longtemps, depuis que je suis moi-même un peu moins jeune. La transmission, elle est naturelle. On dit souvent que la transmission est très importante. Oui, la transmission, elle fait partie intégrante de la vie d'un musicien. Et je jouais depuis un certain temps avec des jeunes musiciens et j'ai pensé que c'était intéressant de créer une structure qui puisse justement structurer tous ces conseils, toutes ces actions qu'on va faire. L'idée, c'est très simple, c'est de jouer avec eux. C'est de faire parler d'eux, mais en jouant avec, donc en les accompagnant en tant que chef d'orchestre, ou en jouant avec eux des concertos, ou en jouant de la musique de chambre. Il n'y a rien de mieux pour un jeune musicien que d'être porté par ses pairs. Moi, j'ai moi-même appris avec Martha Argerich, avec Abbado, en jouant avec eux. Et donc, c'était une façon de les aider, de leur faire de la courte échelle. Et vous savez...
Mais c'est plus que de la courte échelle.
Oui, bien sûr.
Vous les encadrez, ils sont quasiment produits, ils rentrent dans une écurie, la nouvelle écurie Capuçon.
C'est pas une écurie, c'est un peu une famille, une famille d'artistes qui va se céder et surtout, moi je me rends compte à quel point quand on a 20 ans, on est assez isolé, on peut avoir un agent, mais on est quand même très isolé, il y a plein de questions qu'on se pose et il y a souvent personne pour y répondre. Là, je passe mon temps à les conseiller, alors ils me posent des questions parfois très pragmatiques, parfois c'est des questions... je sais pas, des questions de répertoire, c'est des questions, on nous invite à telle émission de radio, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois jouer tel concerto l'année prochaine? J'ai deux concerts en même temps, lequel choisir?
Mais ça, c'est les questions qu'on pose normalement à un agent. Est-ce que
ces
jeunes gens ont des agents?
Non, ils sont pas encore d'agents.
On n'a pas dit qui ils étaient. Ils sont six jeunes talents.
Ils sont six, alors il y a deux violonistes, Anna Agafia et Manon Galli, qui a remporté les Victoires de la Musique récemment. Violoncelle, on a Stéphanie Wang, qui était un finaliste du concours de la Reine Elisabeth. On a deux altistes, Paul Ziantara, avec qui j'ai joué encore il y a deux jours, la symphonie concertante de Mozart et Violaine de Pérou. Et puis Guillaume Bellhomme, qui est le pianiste avec qui je joue depuis cinq ans maintenant.
Donc ça veut dire qu'ils ont la chance de jouer avec vous depuis un moment?
Oui, alors je les ai rencontrés pour la plupart il y a un ou deux ans, sauf Guillaume Bellhomme, que je connais depuis longtemps. Et c'est en fait une façon, encore une fois, de partager la musique avec eux. Et ça me fait un bien fou, parce que vous n'imaginez pas, là j'ai joué cette concertante avec Paul Ziantara, qui a 21 ans. Bon, il mesure 1m94, donc outre le fait que j'ai l'air d'être très très petit sur scène, on réfléchit à une idée d'échasse, enfin un truc pour que j'ai l'air moins idiot. Non mais sérieusement, c'est un talent extraordinaire, et c'est merveilleux de voir... cet altiste se révéler dans cette œuvre de Mozart, se faire connaître du public plus facilement et plus vite, parce que évidemment là il joue dans des salles pleines, alors peut-être il aurait joué dans des salles moins remplies s'il était venu tout seul.
Mais ça veut dire que vous en aviez marre des bravos pour vous seul?
Mais vous savez, les bravos c'est sympa, mais c'est pas ça la motivation. La motivation, moi, ce qui me fait me lever tous les matins et de plus en plus tôt, parce que les journées sont trop courtes, c'est cette fringale de musique. Et j'ai besoin de la partager. Et il n'y a rien de mieux que la jeunesse pour vous permettre de rester, de vieillir un peu moins vite. En fait.
Oui, pareil, c'est vrai. je suis d'accord. Mais c'est quand même une initiative peu courante, peut-être la première dans le monde.
Je pense que c'est assez unique qu'un artiste fasse ça. Voilà. Qu'un artiste soit tête d'une entreprise. Alors, j'ai eu mon premier conseil de surveillance hier. C'est une chose tout à fait nouvelle pour moi.
C'est une vraie société.
Oui, c'est une vraie société. Il faut faire un chiffre d'affaires. Les choses sont très pragmatiques. Et ça alimente aussi cette curiosité que j'ai toujours eue pour le monde économique aussi.
Mais pour cela, vous vous êtes associé à Banijé, qui est une société de production de télévision. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, mais derrière, il y a à la fois Cyril Hanouna, Les Ch'tis, Les Marseillais, Masterchef, Koh-Lanta, Nagui, Starac. C'est deux mondes qui s'opposent, qui n'auraient même pas dû se rencontrer.
Si, parce que Stéphane Courby, qui est à la tête de ce grand groupe, est quelqu'un d'extrêmement ouvert, qui aime la musique. Et pourquoi eux? Parce que, tout simplement, justement, ils ne font pas ça. Ils n'ont pas d'entreprise, enfin en tout cas de société qui s'occupe de la musique classique. Et j'ai trouvé que ce grand écart était passionnant, et je pense qu'il y a énormément de synergies dans le futur qu'on va pouvoir faire. En tout cas, leur rapport est absolument primordial. Et au-delà de ça, on est en train de réfléchir à divers projets, sans bien sûr changer ce qu'on est, nous, notre identité. On fait de la musique classique et on continuera à faire de la musique classique. Moi, mon cœur de cible, c'est vraiment c'est Brahms, Schubert, Mozart, et ça n'en changera pas. Simplement, essayer de réfléchir comment être aujourd'hui au 21e siècle et comment faire bouger les lignes en restant sur cette ligne de crête qui est toujours la même chose, l'éthique musicale, et pas se mettre à faire du populisme, ce que je déteste dans la musique classique, mais en étant autre chose que simplement élitiste, ce qui tue la musique.
On a compris que vous êtes un musicien classique ancré dans le présent. Absolument. Dans un instant, on parle de la manière dont vous avez utilisé d'ailleurs les réseaux sociaux, d'abord pour ne pas subir le confinement, et aujourd'hui comme outil de promotion, comme n'importe quel rappeur ou quel rocker d'ailleurs. Mais oui, c'est tous ces outils qui servent à tout le monde, y compris à Renaud Capuçon. Mais d'abord, on vous écoute sur Europe 1. Vous êtes toujours sur Europe 1 Culture Média, c'était du Bach, Renaud Capuçon.
Absolument, le final du deuxième concerto pour violon.
Et vous me disiez, ça purifie Bach.
Oui, mais ça me fait, pas cette version, pas ma version, Bach, la musique de Bach, c'est quasiment la seule musique que j'écoute. Je trouve que c'est une musique qui fait du bien, vraiment.
On le disait, vous êtes un musicien classique, mais vous utilisez les moyens de communication du présent. D'une certaine manière, d'ailleurs, vous êtes un violoniste 2.0, même si vous jouez avec un instrument du 18e. Vous avez été très présent sur les réseaux sociaux, notamment au moment du confinement, en fabriquant beaucoup de petites vidéos. C'était le manque absolu de se retrouver enfermé, de ne pas pouvoir jouer, qui a provoqué cette envie de fabriquer des vidéos.
Oui, frustration, une forme de dépression aussi. Et ça a été mon moyen de survie.
Dépression.
Oui, j'étais en train... Vous savez, quand vous barrez d'un coup sans concert, et que vous partez d'habitude pour jouer en permanence, et que là, vous êtes, bien sûr... Au-delà du fait que le bonheur d'être à la maison était total, mais il y avait quand même cette frustration de ne pas être sur scène. Donc j'ai fait ça comme une sorte de réflexe, mais surtout ce qui a été très beau, c'est la réaction des gens. Et encore aujourd'hui, après chaque concert, en France ou à l'étranger, on me parle de ces vidéos en me disant « ça m'a aidé, ça m'a... » et ça, c'est très touchant. Et ça a créé aussi un lien très spécial avec le public. Donc là, les réseaux sociaux ont cet aspect positif.
Mais qui se poursuit ? Sur les réseaux sociaux, vous les utilisez encore ?
Je les utilise, oui, mais pas parfois je mets des extraits musicaux, mais j'enregistre pas tous les jours une vidéo. Voilà, je pense qu'il faut raison garder.
Et pour les jeunes musiciens avec lesquels vous travaillez, par exemple, c'est un excellent outil de communication.
Bien sûr, là aussi, le conseil est important parce qu'ils voient aussi autour d'eux un peu tout ce qui se passe. Ils voient à la fois des artistes qui surcommuniquent et qui font un peu n'importe quoi, qui n'ont pas forcément le niveau et qui s'auto-promotionnent de façon un peu éhontée. Vous en avez d'autres qui sont extraordinaires et qui sont totalement inexistants des réseaux sociaux. Et ça, c'est
aussi
dommage.
Vous avez des conseils à leur donner.
Bien sûr, et leur donner aussi cette espèce de ligne, non pas de ligne rouge à ne pas dépasser, mais si, il y a un moment donné où quand le narcissisme narcissisme devient grotesque, c'est néfaste pour l'artiste. Quand on a l'impression que l'artiste est ému simplement par son ego et pas par sa pensée ou par son âme, là c'est problématique. Donc c'est conseils que je leur donne, mais la plupart du temps, et tous ces six jeunes musiciens dont je m'occupe, dont on s'occupe avec Bossoir Productions, sont des gens qui ont déjà une vraie éthique.
Oui, mais un musicien classique, c'est un influenceur comme un autre.
Ça, c'est vous qui le dites.
La promotion des artistes pour les autres, pour vous aussi, Arte vient vous de consacrer un grand portrait, un grand reportage intitulé Un violon sans frontières, disponible en ce moment sur la plateforme arte.tv. Vous avez accepté qu'une équipe vous suive pendant une année riche, hein.
C'était un tout petit peu moins d'une année parce qu'il y a eu le Covid, ouais. Ça a été compliqué, on a dû annuler des concerts, des voyages à Hong Kong, etc. Mais ça a été formidable d'être suivi comme
ça.
Il
y a beaucoup de gens qui parlent de vous et notamment celui-là, je ne le présente même pas.
Il fréquente Mozart, il fréquente Wagner, il fréquente Bizet, il fréquente Beethoven. Et il a une vie très, très directe, très simple. C'est très étonnant le mystère entre l'interprète qui voit des génies et c'est très étonnant, vraiment.
On vous voit diriger un orchestre. Alors c'est Fabrice Lucchini, évidemment, avec qui vous avez partagé la scène.
Oui, on a partagé la scène ensemble cet été. Oui.
On vous voit aussi diriger un orchestre, c'est récent, la direction d'orchestre.
C'est récent, ça a 3 ans, et j'ai la tête de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, avec lequel j'ai entamé un travail passionnant. Ce sont des musiciens que j'adore. Et c'est, encore une fois, on parlait de fringales de musique, j'aborde maintenant à la direction d'orchestre tout un répertoire. Par exemple, là, on va jouer la 3e symphonie de Mendelssohn, Ma mère doit de Ravel, Pélias de Forêt. Donc c'est un répertoire que je ne jouais pas moi-même au violon soliste, mais que je dirige maintenant. Et ça, c'est passionnant.
Mais ce n'est pas une fringale, c'est un appétit de monstre. Vous avez vous racontez aussi dans le documentaire que jeune, vous aviez peur de l'avion. Énorme handicap pour un violoniste.
Bah, c'est-à-dire que... Oui, je raconte cette anecdote où je me retrouve avec Rostropovitch un matin. On était dans une tournée d'un orchestre de jeunes et je passe devant lui et j'étais visiblement blême. Et il me dit, mais toi, si t'as peur dans l'avion, pas carrière, c'est pas possible. Il parlait pas exactement comme ça. Mais... Et ça m'a marqué parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qu'il faut avoir en soi. Si on a peur dans l'avion, bah, il faut arrêter ce métier parce que c'est compliqué quand même.
Conseil aux jeunes talents, si tu as peur de l'avion, ne fais pas ce métier.
Il n'y a pas que l'avion, il y a le train, il y a plein d'autres choses, plein d'autres moyens.
Merci beaucoup. Dans un instant, vous restez avec nous. Dans un instant, Lisa Marie Marquez remontera le fil de la carrière de notre invité en 3 moments marquants de sa vie. Que 3. Ce matin, Renaud Capuçon est donc l'invité de Culture Média sur Europe 1. Vous restez avec nous.
Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du violoniste Renaud Capuçon et on va revenir sur 3 moments marquants de votre vie avec Lisa Marie Marquez. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Olivier, bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour.
Vous êtes considéré comme l'un des plus grands violonistes du monde et je vous propose aujourd'hui de rembobiner et de revenir sur 3 moments de votre carrière. Renaud Capuçon, pour ce premier souvenir, direction la Savoie, les Arcs, pas très loin de Bourg-Saint-Maurice, un lieu qui vous est cher, c'est là que vivaient vos grands-parents. Chaque année se déroule le Festival des Arcs, c'est là que vous avez découvert la musique de chambre, Schubert, Brahms, Beethoven. Il y avait même Europe 1 sur place pour retransmettre des émissions en direct des Arcs. Et vous, Renaud Capuçon, vous éduquez votre oreille durant ces concerts gratuits. C'est là, je crois, que grandit votre passion dévorante pour la musique. Vous espérer sur place rencontrer les artistes que vous avez entendus au Grand Échiquier de Jacques Chancel.
C'est grâce à Jacques Chancel qui est véritablement venu le désir.
Oui, j'étais dans sa maison il y a encore 48 heures. Donc c'est quelqu'un que j'ai adoré.
Et si ce festival a été un festival de jazz, vous seriez venu manouche?
Je ne sais pas. En tout cas, il se trouve que le classique a eu raison de moi.
Et je crois que quand on vous demandait ce que vous vouliez faire plus tard, c'était violoniste l'été et skieur l'hiver.
C'est ça.
Vous avez
c'est
pas
original.
Réussi.
Bah, j'ai réussi à être skieur quand même l'hiver, mais pas professionnellement.
Renaud Capuçon, on continue notre voyage avec un autre souvenir. Nous sommes en 2002 et vous êtes l'invité de Philippe Labro dans son émission Ombre et Lumière. Et voici comment il vous présente à l'antenne.
Il a tout juste 25 ans et d'ores et déjà, c'est un des violonistes solo. Même s'il joue souvent avec des orchestres, mais en soliste. C'est un des violonistes français les plus réputés. Il est d'ailleurs récipiendaire du prix des jeunes virtuoses, Renaud Capuçon.
Je crois que c'est l'un des premiers journalistes à s'intéresser à votre parcours de violoniste.
Absolument, il m'avait entendu au Festival de Salzbourg. Et depuis, on a noué une amitié qui ne s'est jamais démentie. Et c'est un de mes plus proches amis, vraiment.
Et est-ce que c'est vrai que vous vous surnommez mutuellement Cappuccino et Labruccino?
C'est vrai, on s'écrit comme ça depuis toujours. Donc c'est, il m'appelle Cappuccino et je l'appelle Labruccino.
Il y a beaucoup de monde dans le métier qui vous appelle Cappuccino. Hein. J'ai l'impression que c'est dit dans le documentaire.
Renaud Capuçon, pour ce dernier souvenir, direction le métro parisien. Nous sommes en 2009 et à l'instar du musicien Joshua Bell à Washington, quelques mois plus tôt, vous êtes allé dans le métro avec votre violon, le Vicomte de Panette. Vous portez une barbe un peu mal rasée, vous êtes affublé d'un chapeau. Vous avez joué toute une journée devant plus de 18 000 personnes sans que personne ne vous reconnaisse.
J'aimerais bien voir la photo.
C'était un court-métrage qui a été fait par Simon Lelouch, qui voulait transcrire en vidéo ce qu'avait fait Bell à Washington. C'est une expérience géniale, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point j'ai joué vraiment dans la rame de métro, et il y a des gens qui n'avaient pas envie d'entendre la musique. Et ce que je comprends très bien, on n'a pas forcément, selon l'heure du jour, quand on est assis dans le métro, on n'a pas envie d'être ému, ou simplement d'entendre un violoniste, ou de le voir. Ça, je peux très bien comprendre. Mais c'était assez violent comme réaction.
Et parfois. On ne vous a pas reconnu.
Ah non, ça c'est évident, mais ça c'est normal.
Et vous avez récolté quoi? Tout le monde se demande combien vous avez récolté.
Il y a une histoire qui est drôle, c'est qu'au moment où j'attendais le métro pour monter dans cette rame, l'équipe qui filmait était dans la rame qui allait arriver, donc j'étais seul. Et là arrive un violoniste, mais qui lui jouait tout le temps dans le métro, un manouche, et il me dit: t'es qui toi? Et là j'ai eu limite peur, parce que moi j'avais mon violon dans la main, et j'ai dit bah rien, et il m'a dit vas-y joue, et en fait il m'a demandé de jouer quelques notes, donc j'ai auditionné dans le métro, c'était totalement ubuesque, c'est dommage que cette scène n'ait pas été filmée, et il m'a dit, après quelques notes, il m'a dit bon c'est bon tu peux rester, et il est parti, donc j'ai quand même fait une audition dans le métro.
Pardon, vous avez joué avec votre super violon?
Non, j'avais un autre instrument.
Ouais. Les risques du métro.
Et deux jours plus tard, Renaud Capuçon, après cette expérience dans le métro parisien, vous jouez au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui, j'avais un concert au Théâtre des Champs-Élysées et c'était intéressant de montrer le contraste. Je jouais la même pièce en bis au Théâtre des Champs-Élysées qui était juste à côté de cette station de métro. Et là, il y avait 1500 personnes qui étaient en silence, en train d'écouter un violoniste qu'ils avaient choisi d'entendre. Et c'était pour montrer cette dichotomie entre le voyage du métro où le même violoniste finalement est totalement laissé pour compte et puis ce concert où on venait m'écouter. Et je trouve que l'expérience était intéressante.
Et vous avez gagné combien au final dans le métro?
Ah non, j'ai gagné parce que c'était, je suis pas resté toute la journée. Ça, c'était Bell qui avait fait ça toute la journée. Moi, c'était plus pour le tournage. Mais ouais. Ce qui était intéressant, c'est que c'est des bonnes piqûres pour l'ego.
Pour l'ego.
C'est génial. Franchement, ça remet bien en place. Ouais.
Merci Lisa Marie.
Merci.
Dans un instant, notre première indispensable avec Héloïse Goy, Culture Média continue sur Europe 1. On marque une pause. À tout de suite.
Sur Europe 1. Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Aujourd'hui, venez découvrir le récit de trois fous du microscope.
La biologiste Rosalind Franklin, une pionnière de la découverte de l'ADN que l'histoire a hélas oublié. Puis Alexandre Yersin, un médecin aventurier parti explorer le monde dans l'optique de faire progresser la science.
Et un artiste qui a inventé un art de l'infiniment petit que personne ne peut voir sans microscope, Willard Wigan, et ses statues qui tiennent sur la pointe d'une allumette ou dans le chat d'une aiguille.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
A tout à l'heure dès 16h sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Vous êtes toujours sur Europe 1, on est avec Renaud Capuçon et vous entendez la musique du Grand Blond, reprise sur un album que vous avez fait, hommage au cinéma.
Absolument, il y en aura bientôt un autre, je pense. C'était un bonheur d'enregistrer ces musiques et c'est, je pense, l'un des seuls disques que je peux écouter sans avoir de gêne, parce que tout le reste, je m'autocritique en permanence. Ça, je l'entends vraiment comme si c'était quelqu'un d'autre qui jouait.
Ah bon,
c'est agréable.
Vous n'aimez pas vous écouter?
Non, pas trop.
Mais comme les comédiens qui détestent se voir à l'écran. Et celui-là, oui.
Bah, c'est le seul que...
Vous l'analysez
que si quelqu'un l'écoute et que je suis là, j'ai pas besoin de couper. Autrement, je coupe.
Ouais.
Et c'est pas de la coquetterie, c'est juste... C'est désagréable, quoi.
Ouais. Et le Grand Blond prend... Parce qu'on écoute le Grand Blond prend une autre dimension.
Et là, c'est le parrain.
Ça, c'est le parrain, exactement. Vous aimez les séries?
J'adore les séries.
Bon, on va en parler avec Héloïse Gouard. Vous nous parlez d'une série joyeuse et même drôle pour l'été.
Oui, bonjour Olivier, bonjour Renaud Capuçon. Eh bien oui, je vous ai parlé d'O.J. Simpson lundi. Et là, je me suis dit, bon, les vacances approchent. On a tous envie de souffler, de se détendre. Et pourquoi pas au bord d'une piscine, dans une villa de 1000 mètres carrés où il suffit de claquer des doigts pour boire des mojitos et manger des gambas au caviar. Ça vous tente, messieurs?
Ben oui, bien sûr.
Gambas au caviar, non. Franchement, non,
ouais,
mais
il faut mojito, hein. En tout cas, tout ça, c'est la vie que mène l'héroïne quinquagénaire de cette série qui s'appelle Loot. Loot, L-2-O-T, ça veut dire butin en français, mais le titre québécois est encore plus parlant, c'est le gros lot. Et ce gros lot, c'est celui que va gagner Molly Novak lorsqu'elle découvre que son mari, avec qui elle est depuis plus de 20 ans, a fait une petite bêtise qu'elle n'a pas vraiment appréciée.
Hayley, dans notre chambre.
Molly, écoute, je peux t'expliquer.
C'est qu'une gosse, elle est toute jeune. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Elle ne devait même pas être née quand on a fini nos études.
À vrai dire, elle avait tout juste un an.
Oh, ça c'est cool! Je te rappelle que je suis à tes côtés depuis plus de 20 ans. J'ai couché avec toi quand t'avais encore ton corps bizarre.
D'accord.
Avant que tu l'arranges avec du pognon. Ce que je veux, c'est divorcer.
C'est clair.
Bah c'est très
une
clair.
Une grosse bêtise.
Oui. Alors comme son mari est multimilliardaire, eh bien elle va obtenir du divorce la modique somme de 87 milliards de dollars. Elle devient la troisième plus grande fortune des États-Unis. Mais malheur, Molly est triste. Elle s'ennuie. Elle en a assez des caipirinhas servis sur son giga maxi yacht. Et elle ne sait plus vraiment quoi faire de son argent. C'est pas facile hein, comme problème. Mais c'est à ce moment-là qu'elle découvre qu'elle a une fondation caritative à son nom. Et ça, c'est chouette, parce que c'est l'occasion pour elle d'aller rencontrer les équipes et de découvrir à quoi ressemble la vie de gens normaux.
Et ça va donner quoi?
Alors au début, c'est une catastrophe, hein, parce qu'elle n'a pas du tout les codes de l'entreprise. En fait, elle n'a pas du tout les codes de la vraie vie. Et ça donne lieu à des scènes plutôt cocasses, notamment quand elle donne des conférences de presse au nom de la fondation.
Nous sommes tellement fiers d'ouvrir ce centre d'accueil. Qu'est-ce qui définit une maison, réellement? Je peux vous dire que pour moi, la maison est l'endroit où j'ai ma cave à vin. Il est vrai que personnellement, je n'ai jamais été sans logement. Mais je me souviens d'un été où, durant les travaux de construction de notre maison de New York, j'ai dû loger au Plaza. À la fin de ces 3 semaines, j'avais l'impression de sortir de prison.
Mais elle est déplorable.
Ben, un petit peu, mais c'est dur, peut-être 3 semaines au Plaza, on ne sait pas, hein, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Heureusement, ça va s'arranger avec le temps, mais vous voyez bien qu'elle a tout de même beaucoup, beaucoup à apprendre. Hein.
Bon, qu'est-ce qui vous a plu précisément dans cette série,
alors,
Louise?
Déjà, j'ai trouvé ce pitch chouette, parce que mine de rien, il interroge le sens moral des ultra-riches. Là, on parle des ultra-ultra, hein, les 1% les plus riches, qui sont pour la plupart coupés des réalités du monde. Et le bilan ici est plutôt positif, hein, puisqu'on nous parle de deuxième chance. En fait, le monde de Molly s'est effondré, mais ça a été l'occasion pour elle de renaître et de se fabriquer une conscience. Ça, on le voit dans la suite de la série. Je précise que les scénaristes de Loot sont les mêmes que la série Parks and Recreation, si vous l'avez vu. Et puis surtout, la série repose sur les épaules de Maya Rudolph. C'est l'excellente actrice qui incarne Molly. Maya Rudolph, c'est une star aux États-Unis. On l'a beaucoup vue dans l'émission très populaire SNL, vous savez, Saturday Night Live. Et elle est excellente. Elle a des mimiques extra que je ne m'aventurerai pas à vous imiter ici. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette actrice et pour cette série drôle et tendre qui nous change les idées.
Ça, c'est le générique, hein, qu'on attend. La série s'appelle donc Loot. On peut l'avoir sur quelle chaîne, sur quelle plateforme?
L2OT. C'est en cours de diffusion sur Apple TV+. Déjà 4 épisodes sont disponibles et un nouvel épisode arrive chaque semaine.
Vous êtes client des ultra riches? Enfin, des séries plutôt.
Des séries oui, j'aime beaucoup. J'ai regardé dernièrement Le Flambeau. Et je veux dire,
sur Canal Plus.
J'ai ri, mais vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai rencontré par hasard Jonathan Cohen quelques temps après. Et il était très étonné que les violonistes aiment Le Flambeau. Donc il était très heureux de voir que ce qu'il imaginait certainement comme des gens un peu sérieux, etc., pouvaient se marrer aussi.
Oui, mais on parlait des ultra riches. Dans le milieu pour lequel vous jouez, parfois, on trouve des gens ultra riches.
Il y a tout. Il y a absolument de tout. Ouais. Il y a certainement des gens ultra riches, il y a des gens ultra pauvres. Quand on joue des concerts qui sont justement destinés à ouvrir pour tous les publics. Mais ce qui est important pour nous, c'est de jouer toujours de la même façon. Et qu'on joue dans une petite église dans le Périgord ou dans une grande salle de concert, d'avoir la même foi et le même désir de donner.
C'est Renaud Capuçon que vous entendez dans un instant, notre deuxième indispensable, Olivier Pouls. A tout de suite sur Europe 1. Merci Héloïse.
Merci. Culture Média sur Europe 1. 9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Toujours avec le violoniste Renaud Capuçon qu'on a plaisir à accueillir ce matin. Je cite Le Figaro, 2018, il y avait trois plats fédérateurs dans mon enfance, dit Renaud Capuçon, la fondue, la raclette et la tarte aux myrtilles. Le ski, ce n'est pas possible si à un moment donné, il n'y a pas une raclette et une tarte aux myrtilles, ce sont mes madeleines. Sans oublier le Beaufort, bien sûr, qui reste quelque chose d'essentiel pour un Savoyard.
On n'est pas Savoyard pour rien. Hein,
voilà. Ah oui. Mais c'est pour faire une transition avec Olivier Pels. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier,
bonjour. Pour parler de vin, pas parce que, et c'est important de le dire, c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut laisser venir n'importe quoi dans votre verre. Ça,
ah non,
c'est très important, surtout du côté des rosés.
Oui, alors c'est vrai que, bon, il faut le reconnaître, hein, le rosé a cette consommation très estivale et c'est pas désagréable de boire un verre de rosé un peu frais, sans glaçon, je précise quand même, lorsque les températures montent, mais c'est pas parce que c'est l'été, vous avez raison, qu'il faut boire n'importe quel rosé. Et le rosé, c'est probablement un des vins qui, en ce moment, est le plus galvaudé. Il y a une espèce d'industrialisation de la production de rosé, notamment en Provence. Vous avez ces rosés qui ont tous un peu le même goût, vous savez, de fraise tagada ou de pamplemousse, et plus tellement le goût ni du terroir, ni de la région dans laquelle il vient. Et donc, il faut boire du rosé, pourquoi pas ? Mais il faut boire des rosés de vrais vignerons, de ceux qui savent en faire.
Donc faites attention quand vous allez dans le sud, à Égalière, notamment en Provence, de ne pas boire n'importe quoi. Votre sélection, spécialement pour Renaud Capuçon ce matin, c'est du Bordeaux.
Oui, Renaud, je pense que vous avez une affection pour le vin de Bordeaux.
Absolument.
Je ne me trompe pas. Et moi, je voudrais vous parler du Bordeaux nouveau, si je puis dire. Le renouveau, en tout cas, du vignoble de Bordeaux. Alors, c'est un très vieux vignoble, un magnifique vignoble, hein, 140 000 hectares de vignes, mais avec une perception un petit peu poussiéreuse, peut-être, le Bordeaux, vous savez, ce vin qu'il faut attendre très longtemps, réservé aux notaires de province et au repas du dimanche. Et aujourd'hui, Bordeaux est en train de faire sa révolution. Et malheureusement, ça ne se sait pas encore assez. Et je pense qu'il faut aujourd'hui retourner, parce que vous savez, il y a eu le fameux Bordeaux bashing dont on a parlé, hein, cette espèce de mouvement un peu mondial contre les vins de Bordeaux. Entre nous, ils avaient peut-être un petit peu mérité en augmentant les prix, parfois de manière un peu disproportionnée.
Surcoté.
Mais aujourd'hui, il faut revenir, je pense, à ce vignoble qui est magnifique et qui est un des vignobles qui bouge le plus en France. Je vais vous donner juste un chiffre aujourd'hui, c'est qu'il y a 25% du vignoble de Bordeaux qui est conduit en bio. On ne le sait pas, mais c'est l'une des régions les plus dynamiques en la matière. C'est plus 25% rien que l'année dernière de vignobles qui sont passés en conversion bio. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer à Bordeaux, et notamment avec la recherche de vins, et je vous en ai apporté un là, plus digestes, plus élégants, plus fins, qui restent des Bordeaux, mais qui n'ont pas besoin de 30 ans de cave pour se détendre.
Vous pouvez mettre votre nez dedans.
Mais hein. Comme j'ai un concert à Enghien ce soir, je vais simplement sentir.
Oui. Voilà. Mais c'est loin ce soir.
Ah,
c'est dans plus de 10 heures. Il y a la révolution du bio, mais est-ce que ça devient également nature, Olivier ?
Alors aussi, sur le bio, il y a eu quelques précurseurs. Hein. On peut citer Château Fonroc à Saint-Émilion, le Puy, évidemment, qui a beaucoup fait parler de lui, parce que c'était le vin star des Gouttes de Dieu, vous savez, ce manga dédié au vin. Le Château Pontécanet, par exemple, on pourrait en citer plein d'autres. Et ils ont entraîné derrière lui toute une série d'autres vignerons qui sont passés au bio. Et puis, oui, vous avez raison, cette petite tendance de vin nature, bon, ça ne représente encore pas beaucoup de production, même en France, hein, mais il y a une demande, notamment dans un certain nombre de bars ou de bistrots pour ces vins dits nature, c'est-à-dire essentiellement vinifiés sans soufre et issus aussi, évidemment, en général de raisins qui sont en bio ou en biodynamie. On peut citer, par exemple, la cuvée Cérès, qui est une cuvée aujourd'hui qui est faite sans soufre. On peut citer le Clos du Jaugueron aussi, qui aujourd'hui fait du vin sans soufre, les très belles cuvées de Auberger. Antonic, par exemple, qui prend un autre chemin, eux, c'est l'agroforesterie. Et l'agroforesterie, c'est probablement quelque chose qui, dans les années à venir, dans le vignoble à Bordeaux, mais ailleurs, va beaucoup faire parler de soi. C'est le principe de replanter des arbres et des haies au milieu des vignes pour recréer, finalement, une vie, pour recréer un écosystème avec des oiseaux, avec des insectes. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de ça à Bordeaux. Et notamment aussi autour de l'élevage des vins. Vous savez, l'image des vins de Bordeaux, c'est aussi ces vins élevés en fût de chêne, boisés. Mmh. C'était même un argument marketing à un moment. Hein, élevés en fût de chêne, on voulait ce goût de chêne. On est allé jusqu'à mettre des copeaux dans les cuves pour donner le goût de chêne au vin alors qu'il n'avait pas vu le bois. Vous imaginez un peu le truc. Eh bien aujourd'hui,
scandaleux, Olivier.
C'est en tout cas, c'est voilà, on s'éloigne un peu de l'idée qu'on peut se faire du vin. Et aujourd'hui, ben, vous avez des élevages en amphore, des élevages en œuf béton, par exemple, qui donnent des profils de vin un peu différents.
Vous avez dit que tout à l'heure, c'était cher. Ça pouvait être très cher. On est où des prix? C'est un peu redescendu.
Alors, il y a évidemment une petite partie des vins de Bordeaux, le tout haut du panier, les 50 marques qui sont effectivement encore très chères, presque inabordables. Et puis, Bordeaux, c'est des milliers de producteurs aujourd'hui et c'est probablement l'une des régions de France qui offre les meilleurs rapports qualité-prix. Je vous garantis qu'entre 7, 8 et une quinzaine d'euros, vous avez aujourd'hui à Bordeaux une gamme incroyable de vins divers, avec des expressions différentes. On tourne toujours souvent autour des mêmes cépages, hein, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, mais avec des expressions diverses et des rapports qualité-prix vraiment fantastiques pour des vins qui, une fois encore, sont capables de vieillir. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de régions en France qui propose des vins capables de vieillir aussi longtemps que les vins de Bordeaux. Alors non, Bordeaux n'est pas cher.
Objectif, attirer quand même un plus jeune public avec ces prix-là.
C'est exactement ce qu'il faut faire. Bordeaux doit sortir de cette image et je leur dis souvent à mes amis bordelais, réinvestissez les bistrots, la bistronomie, des lieux où on n'a pas vu les vins de Bordeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, faire un Bordeaux qui soit gourmand, frais, comme celui que vous avez dans votre verre, et dont on peut boire un verre avec modération, évidemment.
Évidemment,
En mangeant un plat canaille, eh bien, Bordeaux doit aussi investir ces lieux-là.
Merci beaucoup, Olivier Poulx. Il faut un régime strict pour être un virtuose qui fait le tour du monde.
Oui, si vous donnez 5 concerts par an, non. Mais si vous en donnez 150, oui, c'est normal, c'est comme un sportif. Donc, pas d'alcool du tout, mais même là, je n'ai même pas goûté.
Même à 10h44 sur Europe 1.
Mais ce n'est même pas une question d'heure, c'est une question... S'il n'y avait pas eu le concert, j'aurais goûté avec plaisir. Et je suis désolé, ce n'est pas très poli pour vous, mais c'est une question de maîtrise de soi. Et puis oui, moi, je ne prends pas de café les jours de concert parce que ça me stresse. Par contre, j'en prends beaucoup quand je ne joue pas. Voilà, chacun a sa règle... à des règles différentes. Je pense que l'alcool avant de jouer, pour quiconque, c'est pas bon.
Donc pas d'alcool, très bon. Pas manger trop.
Je crois qu'il y a quelques rockers qui ne font
tout à fait. Je parle des bons classiques. On est au milliard de millimètres.
Jamais de drogue.
Pas de drogue, non.
Évidemment.
Non.
Vous faites du sport ?
Je fais du sport.
Vous courez ?
Je cours, j'aimerais courir un peu plus. Mais
on a un titre pour vous. On écoute tout de suite Axel Bauer, L'homme qui court.
Très bien.
Il a brûlé sa maison sur un simple coup de tête, l'homme qui court sans raison, là-haut sur la ligne des crêtes. Il a franchi la colline, il voulait juste voir derrière, si l'herbe ailleurs était plus fine, et si l'eau sa vie, ça vaut tous les discours et les théories. Et cet homme qui court toujours, de haut petit matin au bord des routes, il suit son long chemin sous les étoiles du doute, ignore vers où ses pas l'entraînent, un paradis où seulement lui-même. Bien sûr, il sait tout ce qu'il laisse, l'argent, l'amour, le confort. Il sait surtout que le temps presse, que s'il s'arrête, il est mort.
C'était L'homme qui court d'Axel Bauer. Dans un instant, on retrouvera Marc-Antoine Lebré pour ses stories et notre invité Renaud Capuçon pour la dernière partie de notre émission sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge.
Par Elisabeth Assayag.
Comment la grande distribution s'organise-t-elle face à l'inflation ? Comment prépare-t-elle les offres pour la rentrée scolaire dans ce contexte ? Toutes les réponses avec Philippe Brochard, le directeur général d'Auchan.
La France bouge.
Alors à tout à l'heure, dès 13h sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Olivier Benkemoun.
Sans doute une des plus belles musiques du monde. Le mépris, par Renaud Capuçon. Ouais. Le violoniste, le concertiste, l'entrepreneur aussi, le coach de talent, nouvelle activité, on en parlait tout à l'heure pour promouvoir les jeunes. On n'a pas encore parlé de votre violon. C'est une merveille, il est devant vous. Vous n'êtes plus Stradivarius.
J'ai été Stradivarius et je le suis aussi, hein, parce qu'on m'en prête un en ce moment, donc je joue les deux. Mais je dois dire que ce Guarnarius que j'ai entre les mains maintenant...
Vous pouvez monter un tout petit peu plus, c'est pour ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr, ah, voilà, partout, okay, il y a des caméras partout. Voilà.
Donc c'est un instrument qui date de 1737, qui a été fait par Guarnarius à Crémone. Et ça donne un peu le tournis, en fait, quand on voit ces instruments. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Il en reste une soixantaine dans le monde, de Guarnarius. Il reste à peu près 500 Stradivarius. Mais ce sont des œuvres d'art. Et quand on me demande la différence avec un instrument d'aujourd'hui, et j'ai moi-même commandé plusieurs violons, notamment à Patrick Robin, à Charles Coquet, à Pierre Bartel, des violons que je prête ensuite à des jeunes musiciens. Bien sûr qu'un luthier peut faire un magnifique instrument qui sonnera sublimement, mais Guarnarius et Stradivarius, ils sont inégalés à ce jour, mais comme Picasso est inégalé, comme Modigliani était. Voilà, ce sont simplement des génies qui ont fait des œuvres.
Il a été fabriqué à quelle période ?
En 1737.
1737.
À Crémone, en Italie. Et il a survécu à des guerres, il a survécu à tout. C'est ça qui est incroyable, il n'a aucune fracture.
Il a un nom.
Il s'appelle le vicomte de Panette, parce qu'il a appartenu à ce vicomte qui habitait Bourges à l'époque.
Mais qu'est-ce qui change avec les luthiers d'aujourd'hui ? C'est le bois ? C'est la forme ?
Non, tout est pareil. Simplement, c'est le... Alors, on pense que le vieillissement du bois était différent, que le fait que les bois n'étaient pas traités. Enfin, il y a plein de choses, mais je ne serais pas qualifié pour en parler. Ce qui est passionnant, c'est d'entendre les luthiers d'aujourd'hui en parler, parce qu'eux, ils ont une quête d'absolu aussi. Et encore une fois, ils font des instruments merveilleux. Je pourrais très bien, aujourd'hui, jouer uniquement un instrument moderne. C'est un choix que je fais. Et puis, il y a une petite différence de prix, effectivement.
Aussi, mais à un moment, vous avez changé, vous étiez davantage sur la Stradivarius. Est-ce que ce violon vous permet de réaliser des performances que vous n'arriviez pas à faire déjà avec un violon d'exception ?
Non, parce que Stradivarius, vous en avez... il en a fait énormément. Donc, un Stradivarius peut être une particularité, une autre personnalité. Le Stradivarius que j'avais était magnifique, mais ce Guarnarius me donnait plus satisfaction. Et peut-être qu'un jour, je reviendrai à Stradivarius. Je ne sais pas, ça c'est vraiment une question d'affinité et de moment. Mais ce violon, ça fait déjà presque 20 ans que je joue avec, donc il est question que c'est quand même mon partenaire de vie.
Eh bien, ce violon, votre partenaire de vie avec vous, sera en concert ce soir à Enghien-les-Bains. Vous serez au Festival de la Roque d'Anthéron le 26 juillet à Saint-Tropez, le 1er le 2 août, et puis au Festival Berlioz le 22, 23, 24 août.
Oui, tous ces concerts, alors il y en a d'autres, mais tous ces concerts, ce sont des concerts avec les jeunes de Beaux-Soirs Productions dont on a parlé tout à l'heure, et on va passer une partie de l'été à travailler et à se retrouver.
Merci beaucoup Renaud Capuçon. Vous restez avec nous parce qu'il est 10h54 et on passe aux stories de Marc-Antoine Lebré tous les matins. Des stars sont là exprès pour notre invité et aujourd'hui Mathieu Chédid est passé vous voir ce matin.
Bonjour Renaud.
Bonjour.
Je dois être honnête, j'en veux à des gars comme toi. Pour emballer des nanas en soirée, c'est chiant. Hein. Moi, je sortais la guitare, je branlais le manche, mais il y avait toujours un beau gosse comme toi qui dégainait le violon, jouait l'Ave Maria et il ne chopait pas non plus, hein, faut pas pousser. Hein, non plus, hein. En fait, celui qui chopait, c'est celui qui avait le scooter. J'ai vu que Yamaha faisait des violons. Ça ne va pas être pratique sur le périph', mais c'est peut-être l'occasion de te venger.
Ariel Dombal est là pour vous, Renaud Capuçon.
Bonjour, Olivier. Hola, Olivo. Et bonjour, Renaud. Hola, Seat. C'est moi, Ariel. La calas resucitat. Yo soy la calas resucitat subzanax. Renaud, je vous adore. Je rêve d'une collaboration avec vous. Una collaboración con un bel hombre porque BHL souvent mollo et no allegro. Je suis soprano. Je peux atteindre des notes qu'un piano n'atteint pas. Yo soy la castafiore. Oh, oh, oh,
oh. Renaud vient d'entrer dans le studio. L'autre.
Salut, Renaud Capuçon. C'est Renaud Capuçon. Bah, toi et moi, on est pareil, à ça près. Pendant que tu joues le cap de Pachelbel, moi, je descends des canons de bière belge. Tu joues sur un Guarnarius de 1737, moi de 1664. Et je t'ai écouté tout à l'heure, t'as pas bu de Bordeaux dans le studio. Du coup, je me suis permis de boire à ta place.
Merci, Renaud.
Deux étrangers au bout de la table, aussi différents. Le type connu, pas anonyme, mais pourtant, santé.
Merci beaucoup, merci Renaud, merci Marc-Antoine. À demain, merci à tous. Nous, on se retrouve à demain, à 9h demain pour... Moi, j'ai bu par contre. Demain à 9h pour Culture Média avec le Globetrotter Philippe Googler pour son émission Des Trains, pas comme les autres sur France 5. Philippe Googler qui vous accompagnera sur Europe 1 tout l'été. Et puis le compositeur Ibrahim Malouf, trompettiste de talent, qui viendra nous parler de sa tournée estivale. Juste après le flash, vous retrouvez Junia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Bonjour, quel est le programme du jour ?
Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui dans Bienfait pour vous, on va vous donner eh bien, peut-être des conseils pour réussir vos vacances d'été en famille. Parce que franchement, c'est pas évident de se retrouver tous ensemble avec son conjoint, avec ses enfants, 24 heures sur 24, nuit et jour, pendant plusieurs semaines. Bref, pour éviter les embrouilles, nous sommes là.
Bon, très bien. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va vous donner un petit cours d'orthographe et on va s'intéresser notamment au mot monsieur. Pourquoi on dit monsieur et pas monsieur ? On aura la réponse dans un instant. Et pour finir, il y aura de la gourmandise. On parlera également de ces alternatives au sucre qui sont aujourd'hui à notre disposition. Renaud. Elles ne se valent pas toutes, on fera le point.
Mélanie, Julia, merci beaucoup à Renaud Cartusson d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je vous retrouve demain. Bonne journée.